Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, des clés pour sortir de la culpabilité, des clés pour ne plus se comparer. Anne Merlot, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui donc maman. Vous avez été et vous êtes mère de 5 enfants et vous êtes grand-mère. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous intervenez régulièrement avec votre époux pour des sessions,
oui.
Pour parler aux femmes, pour parler aux couples, pour parler aussi à la famille. On peut vous retrouver tous les troisièmes mercredis de chaque mois sur la chaîne À son image.
Voilà. Chaîne YouTube.
Chaîne YouTube avec un nouveau format de 30 minutes,
voilà.
Sous forme d'enseignement.
C'est ça.
Alors au programme, nous nous étions arrêtés sur, nous avons parlé aussi de cette culpabilité qui est signe aussi de fragilité, signe de peur et puis de comparaison.
Donc,
comment sortir de la comparaison? Quelles sont un peu les clés?
Pour sortir de la comparaison, il faut d'abord s'accepter soi-même. Le gros problème, il est là.
Et on y revient toujours.
On est toujours dans un non-amour de soi-même, dans une haine de soi, dans une fuite hors de nous-mêmes et en train de chercher une autre vie que la nôtre. Hein, on est beaucoup, beaucoup dans la recherche de quelque chose d'autre qui nous rendrait plus heureux. Et donc, on est dans une société où cette recherche d'être quelqu'un d'autre, elle est très forte. Ça se manifeste de toutes sortes de manières. Il y a déjà un rejet de soi-même par le biais du corps, par exemple, où on a de la peine à accepter notre corps tel qu'il est. C'est beaucoup le cas pour les femmes, mais les hommes aussi peuvent vivre ça, avec toute l'explosion de la chirurgie esthétique à l'heure actuelle, parce qu'il y a un refus de nous-mêmes tel qu'on est. Et puis, il y a ce refus de nous-mêmes sur le plan de notre identité de genre aussi. Je n'accepte pas facilement d'être une femme ou d'être un homme. Et ça s'origine dans le rejet de soi-même, tout ça.
On est dans la détestation de soi-même.
Exactement. Et donc, du coup, on cherche autre chose et on se compare aux autres. Et les autres ont ce que je n'ai pas.
Et au fond, on rêve de quelque chose.
On rêve. On rêve une autre vie.
Donc, on est désincarné. On n'est pas dans cette incarnation du moment.
C'est ça. C'est parce que tout ça, c'est parce qu'on souffre.
Oui, je vais vous dire, on touche... Quelle blessure précisément?
Voilà, c'est parce qu'on souffre. On souffre et la souffrance a été quelque chose qui nous a choqué dès le début de notre vie. Et donc, nous n'avons pas forcément bien réagi face à cette souffrance. Et nous avons interprété des souffrances, particulièrement des souffrances d'abandon ou des souffrances d'être mal aimé. Hein. On l'a interprété comme un rejet ou comme le fait qu'on n'était pas intéressant. Que notre vie n'est pas intéressante et n'a pas de valeur. Et si dès le départ, on est persuadé que notre vie n'a pas de valeur, alors effectivement, du coup, on va tout le temps se comparer aux autres. Et la jalousie et l'envie sévissent gravement dans nos vies. On ne s'en rend même pas forcément compte.
Ça existe aussi chez les familles. On peut se comparer.
Beaucoup, voilà, beaucoup.
Selon aussi le nombre d'enfants.
Exactement.
Et générer aussi des jalousies et puis au fond des blessures et des relations amicales compliquées.
C'est ça.
Et puis parfois toxiques. La toxicité aussi existe.
Oui, puis
dans la comparaison.
Et j'entends par exemple des personnes qui viennent me voir en me disant « Oh, telle famille, vous avez vu comme ils sont merveilleux, comme ils sont formidables et tout ça. » Et je leur dis « Attends, tu n'es pas rentré dans leur intimité. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe exactement. Donc ne compare pas ta famille et leur famille. Peut-être qu'ils souffrent beaucoup plus que toi. Peut-être que vous êtes bien plus authentique. » dans ce que vous vivez, dans ce que vous montrez. Et souvent, je repense à quand j'étais plus jeune et que mes enfants étaient petits, on allait à la messe. Avant la messe, on se disputait comme je ne sais quoi, parce qu'on avait perdu les clés, parce qu'on avait renversé le café au lait sur la robe et des choses comme ça. On arrivait à la messe, bof, on se mettait à genoux, on était la famille parfaite, formidable. Et des personnes qui venaient me dire « Mais quelle famille merveilleuse vous êtes !» Alors on se regardait avec un petit sourire en coin, parce qu'on savait qu'à peine sorti, on recommencerait à s'écharper. Et voilà, c'est cette impression. Donc je raconte ça aux personnes en disant « Ne te fie pas à l'apparence et c'est pas l'important n'est pas de se comparer. L'important, c'est de dire « Ma famille, elle est ce qu'elle est. Ma vie, elle est ce qu'elle est. avec toutes les faiblesses qui sont là, avec les péchés, hein, avec les erreurs qu'on peut avoir, avec des enfants qu'on n'a pas choisis, qu'on ne voulait pas qu'ils soient comme ça. La famille dans laquelle on est, on ne l'a pas vraiment choisie, elle nous est comme imposée. Et il y a une révolte de fond au fond de nous, tout le temps, pour se révolter contre l'évidence. C'est contre le principe de réalité.
Au fond, là, vous montrez du doigt que par nature, l'homme se rebelle.
Oui.
Il se rebelle contre le Père,
absolument,
le Créateur.
Mais c'est ça. C'est le signe de ça. Qu'on n'est jamais content de comment le Créateur nous a fait, quoi, et ce qu'il nous donne à vivre.
C'est le monde qui se rebelle, hein.
Oui.
C'est le monde entier, c'est planétaire aujourd'hui. C'est une rébellion contre l'image paternelle.
Hein. Complètement. Complètement. C'est l'histoire de l'humanité, ça. Et c'est l'histoire de l'humanité avec Dieu. Hein? Et actuellement, il y a un rejet de Dieu qui devient de plus en plus grand, mais qui s'origine là-dedans, dans l'insatisfaction, peut-être parce qu'on nous demande trop d'être des gens bien, d'être des gens parfaits, qui montrent une perfection. Et alors, du coup, il y a cette rébellion très très forte, cette revendication, hein, parce qu'actuellement on est dans une société qui revendique sans cesse, hein, et qui se rebelle contre les dirigeants, entre guillemets, sur qui on a reporté notre image de Dieu, quoi, hein. On les a pris pour Dieu, il faut qu'ils pourvoient nos besoins.
Ils sont devenus un peu nos maîtres.
Hein. Et oui, complètement, on est sous leur emprise, mais c'est parce qu'on l'a voulu, comme ça. Parce qu'on a refusé l'emprise de Dieu sur nos vies. On a cru que Dieu voulait mettre la main sur nous et nous dire « voilà comment vous devez être, comment vous devez vous comporter ». Et même la loi d'amour que Dieu a mis en place dès le début avec le peuple d'Israël, ça s'est transformé en loi morale, en loi pour une recherche de purification. Et ça, c'est pas juste. Parce que ce que Dieu n'exige rien de nous, il nous donne des conseils, il nous prévient que le manque d'amour, le manque de respect pour l'autre, le manque de respect pour nous-mêmes, ça conduit à la mort, tout simplement, et à la destruction de la famille, de la société, et ça on l'oublie que notre Dieu n'est pas un Dieu exigeant et qui nous tient sous son emprise et qui va nous punir ou nous priver de sa bénédiction si on s'extrait de sa bénédiction. Sa bénédiction, elle est sur nous, qu'on le veuille ou non, qu'on le choisisse ou non, qu'on l'accepte ou non. Et c'est comme le peuple d'Israël qui était choisi par Dieu et béni, qui n'a pas forcément toujours compris que ce choix que Dieu avait fait de ce peuple était un choix allant dans le sens de la bénédiction et pour faire de ce peuple un peuple capable de bénir les autres peuples et d'être au milieu des autres peuples la bénédiction de Dieu. Mais eux-mêmes ont considéré ce choix comme une malédiction finalement. Et comme des promesses de malédiction. Et se transformant eux-mêmes en malédiction, ils ont été maudits. Ils ont été rejetés. Et même à l'heure actuelle, on voit bien ces luttes-là qui sont internes à Israël et externes à Israël. C'est s'extraire, et nous-mêmes on est comme ça, c'est s'extraire de la bénédiction en croyant que Dieu nous maudit. Et dans les malheurs qui nous arrivent et les épreuves qui nous arrivent, et en ce moment avec le Covid et tout ça, on a cette impression que fait Dieu, quoi. Pourquoi il permet des calamités? Il n'y aurait pas une malédiction quelque part? Et du coup, on s'extrait de la bénédiction. On ne croit plus qu'on est vraiment béni. Et que même à travers l'épreuve, Dieu nous bénit. Il est en train de nous enseigner. Il veut nous attirer de nouveau à lui. Nous faire comprendre qu'il est tout autre que ce qu'on a cru. Que son amour est bien plus fort que ce qu'on croyait, d'une autre qualité que ce qu'on croyait, où il n'y a pas de, on peut pas projeter sur lui l'image paternelle qu'on a envers nos propres pères ou nos propres mères. On peut pas projeter sur lui quelque chose de purement humain. C'est lui qui veut nous enseigner qu'est-ce que c'est que cet amour paternel qu'il a envers nous.
Donc, on touche du doigt aussi un autre point, mais on en reparle, si vous voulez, dans les prochains entretiens de la semaine. On est à la fin de ce numéro 2. Anne Merlou, je vous remercie. On est dans le temps aussi, au fond, de la réconciliation.
Complètement.
Se réconcilier avec soi-même et puis peut-être revenir comme le fils prodigue, l'enfant prodigue, vers ce père
hein,
qui ne veut que bénir chacun de ses enfants et non pas maudire ses enfants.
Oui.
Donc voulons-nous, au fond, la question, accepter la bénédiction du Père ?
Exactement.
On en parle demain ?
Volontiers.
Anne Merlou, je vous remercie. Et puis demain, rendez-vous à la même heure.
D'accord.